Et vous nous préciserez peut-être le dernier texte de Freud, nouvelle traduction, et en plus en édition bilingue, ce qui est formidable. Alors pourquoi c'est nous, et qui sommes-nous pour présenter, pour avoir envie de cette conversation avec vous? Nous, ça veut dire un cartel, c'est-à-dire un groupe, un cartel élargi de diffusion et de lecture de Horizon 66, qui était donc un numéro consacré à la sublimation, la Horizon étant donc la revue de l'envers de Paris. Alors donc, qu'est-ce que c'est que l'envers de Paris? C'est ce que je viens de dire, la revue de l'envers de Paris. Donc, qu'est-ce que c'est que l'envers de Paris? Je pense que tout le monde est au courant. C'est une association qui dépend de l'école de la côte freudienne et qui a à Paris, pour mission, disons, à Paris, de faire des liens, de faire des ponts, de faire une parole, précisément une parole. Je pense que ces deux directrices, et Dalila Arpin, qui est actuelle directrice, et Marga, qui le fut plusieurs lors de deux mandats, seront d'accord avec cette définition qui est que ça fasse des ponts, que ça mette de la parole. Croyez-moi, quand on vient du Conseil d'État, on a envie de mots, on a envie de paroles, on a envie de liens. Et donc, entre la psychanalyse et les artistes, la culture, les mathématiciens, bon. Alors, donc, il y a eu un cartel de diffusion et de lecture de ce numéro d'Horizon. Et on s'est réunis à plusieurs, là un petit peu disséminés dans la salle, pour réfléchir et voir un petit peu comment les textes nous parlaient et qui on avait envie de rencontrer, d'inviter, avec qui on avait envie, disons, de poursuivre, comment on voulait questionner des textes et quels textes. Et c'est assez émouvant parce que, il ne faut pas que ce soit trop pathétique non plus ce que je vais dire, puisqu'il s'agit ici de passer du pathétique au logique, hein, si on suit. Mais ce qui a été très, très, très émouvant, ça a été qu'un certain nombre pratiquement à l'unanimité, on a été touchés, donc on est sept, hein, à avoir fait ce travail de lecture, et pratiquement tous les sept, on a été traversés, touchés par cette conversation donc sur la traduction, hein, qui se trouve dans Horizon 66. Et on a été touchés par cette conversation, on a eu envie de poursuivre, de questionner, de rencontrer donc le lecteur. C'est vous, si vous voulez, qui nous a fait accrocher. Et donc, on s'est dit que ce serait formidable de faire cette soirée à partir de cette double rencontre. Et bon, nous, quoi, les psychanalystes, ça travaille avec quoi? Ça travaille avec les mots. Hein, la traduction, c'est des mots. La poésie, c'est
la voix,
c'est des mots.
Pas la voix.
Et la voix. Et les mots, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on est du côté du bla, 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 très actuel aujourd'hui? Moi, je dirais plutôt que c'est une renaissance, autre signifiant très actuel aujourd'hui, parce qu'on va essayer de prendre ça comme une renaissance. Moi, personnellement, quand j'étais gamine, et j'ai lu ça chez pas mal de collègues de notre champ, Freud tombait des mains. C'était une langue de gestionnaire, de comptabilité. Enfin, moi, ça me tombait. On s'en était parlé quand on s'est rencontrés. Et donc là, c'est vrai qu'on a souhaité justement lire cette nouvelle traduction dans l'idée de mots qui touchent, dans l'idée de mots qui percutent, quoi. Alors autant un mot en effet peut changer un destin, hein, non, voilà, un patient rapporte qu'enfant, paf, on lui dit un truc et puis un mot, et puis toute sa vie sera irrémédiablement marquée par ce mot. Et je me suis dit, ça c'est Marco qui rappelle ça, et c'est vrai que ça m'a parlé pour cette soirée. Et dans la question de la traduction, moi je me suis demandé si aussi il n'y avait pas du même. Parce qu'au fond, on peut lire Freud dans une traduction un petit peu, enfin, on peut pas dire de mal de certaines traductions, mais en tout cas ça nous laissera un peu calme, quoi, j'allais dire. Un peu calme et un peu endormi. Moi, j'ai lu Virginia Woolf en français parfois dans son journal. J'aime vous dire que ça n'a rien produit, justement, alors que quand on la lit dans sa langue, là, il y a autre chose qui se produit. Donc, j'en déduis que certaines traductions ne mordaient pas sur un certain réel. Et donc, voilà. Bon, je ne vais pas faire un grand... je vais en rester là, mais il y a un très joli petit passage de Jacqueline Lemidière qui dit que... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Qu'il s'agit dans une psychanalyse, il dit ça dans L'os d'une cure, Il s'agit d'un une psychanalyse accomplie sur le poème subjectif, une sorte d'analyse textuelle qui a pour effet de soustraire l'élément pathétique et de dégager l'élément logique. Alors voilà, je crois que ça pourrait être un fil de cette soirée et je propose de passer tout de suite une première question à Marcella Fernandez qui a travaillé sur...
Alors, c'est une question pour le collectif. Dans le Brésil que vous aviez donné à Horizon, Nils Hachiman, que je suppose que c'est vous, vous avez précisé que votre collectif, ce n'était pas un collectif de traduction, c'était un collectif de lecture freudienne.
Tout à fait.
Donc, je voulais vous poser la question de savoir qu'est-ce que ça change de traduire Freud quand on est traversé par l'enseignement de Lacan. Qu'est-ce que peuvent trouver les personnes qui vont lire ce livre dans cette traduction qu'ils ne vont pas trouver dans d'autres?
Peut-être que ça peut faire le lien avec ce que disait Stella.
Ouais.
Vous avez dit traduction et en plus édition bilingue. Je me permets de corriger un tout petit peu. C'est-à-dire que je me sens...
Je trouve ça formidable, c'est tout ce que je voulais dire.
Oui,
je ne comprends pas que ce soit toujours une édition bilingue. Voilà.
D'accord. Il me semble que ce qui anime ici notre collectif, enfin notre groupe, c'est la lecture de Freud dans le texte même. C'est-à-dire que je dirais que ce qui nous anime, c'est d'abord de lire Freud. Et lire Freud, ça veut dire le lire en allemand. Le retour à Freud... que Lacan a formulé, me semble être non seulement un retour au texte même, qui semble avoir été tout simplement oublié parce que reformulé dans des doctrines qui en donnaient la synthèse, mais en plus il me semble que Lacan, lorsqu'il parle de retour à Freud, je crois que c'est le retour à la langue freudienne.
Absolument. Oui.
À la langue freudienne. Et même si on est très éloigné de l'allemand, il me semble très difficile, en tout cas c'est ce que j'ai éprouvé, il me semble très difficile d'éviter de revenir ou d'aborder le texte freudien en allemand. Parce que le texte freudien en allemand, c'est le texte freudien. Et de ce point de vue, la traduction me semble être plutôt, pour nous, en tout cas pour moi, un effet que le but réel de ce travail. Et donc, c'est de surcroît, d'une certaine façon, que la traduction est arrivée. Puisque vous parlez de lecture, il se trouve que j'ai ouvert les écrits tout à l'heure, et je suis tombé sur le célèbre passage sur le dessin, et je me permets de vous lire juste un passage qui, d'une certaine façon, répond à ce que vous venez de dire. Lacan écrit... Cette exigence de lecture, c'est écrit en italique, n'a pas le vague de la culture qu'on pourrait y croire en question. Le privilège donné à la lettre de Freud n'a rien chez nous de superstitieux. C'est là où l'on en prend à son aise avec elle, qu'on y apporte une sorte de sacralisation fort compatible avec son ravalement à un usage de routine. Que tout texte, qu'il se propose comme sacré ou profane, voit sa littéralité croître en prévalence de ce qu'il implique proprement d'affrontement à la vérité, c'est ce dont la découverte freudienne montre la raison de structure. Donc,
c'est
la page 364.
Et quel texte ?
C'est d'un dessin.
Ah, d'accord. Voilà.
Donc j'ai ouvert ça et je suis tombé là-dessus. Vas-y.
Non, juste, tu voulais dire quelque chose.
Pas du tout, vas-y.
Parce que je t'ai entendu dire littéralité, donc j'avais noté aussi, donc c'est un... je m'étais dit, les lectures du texte freudien, c'est une sorte de savoir lire entre les lignes. Et j'ai trouvé Walter Benjamin qui dit que c'est, qui parle de la traduction justement, et il dit il faut que littéralité et liberté doivent s'unir dans la traduction sous forme de version interlinéaire. Donc je me suis dit aussi c'est de l'ordre de l'interprétation d'une traduction à l'autre, comme un musicien pourrait aussi interpréter un texte, jamais de la même façon. Aussi, c'est bon, ça c'est autre chose, je sais pas pourquoi je dis ça.
Il y a le côté, enfin, tout simplement très, mais du corps très concret, c'est ça que je reprends.
Ça, voilà, ouais. Moi j'insiste énormément sur le corps,
ouais,
parce que la traduction c'est une affaire de corps, même quand il y a cette édition, comme on dit, bilingue en deux langues, j'aime mieux. C'est quand, entre autres, j'ai écrit ça dans la préface, quand un Français, voilà, prend les livres, tu veux bien m'en donner un ? Voilà.
Non.
Voilà, il lit comme ça, et tout d'un coup, il y a quelque chose dans la langue française, le heurte. Il dit ça, c'est vraiment assez énigmatique. À ce moment-là, il peut regarder le même texte, la même page, parce que l'édition est comme ça. Mais il faut qu'il bouge son corps. Il faut qu'il change la tête de position et les yeux. Tout ça fait partie de la traduction. Aussi, au moment, quand on parle du mot allemand, j'ai beaucoup insisté là entre nous, c'est qu'il faut que la parole qu'on trouve en français passe par le corps, résonne, c'est le fameux résonner de l'accord. Il faut que ça résonne, sinon la traduction est bidon. Voilà. Sinon, c'est du. Le Conseil d'État, voilà, ça me plaît beaucoup.
Le Conseil d'État, c'est ça.
Voilà, mais c'est très important, ça. Parce que dans notre traduction, nous avons eu des moments très difficiles, des discussions, des disputes, enfin, des disputations. Mais ce n'était pas toujours très paisible. Voilà, c'est très important, ça passe par le corps. Comme la lecture, quand nous lisons un livre qui nous touche, ça passe par le corps.
Parce que des fois,
même on peut transpirer d'émotion.
Il y a eu des moments.
Il y a eu des moments dans lesquels vous n'étiez pas d'accord de l'interprétation d'un signifiant.
Beaucoup, beaucoup. Là, je pourrais donner quelques exemples, peut-être pas tout de suite.
Mais sinon, il y a évidemment, il y a plusieurs, même parmi nous là, plusieurs façons, plusieurs tendances. Certains d'entre nous, puis il y a eu d'autres, bien d'autres personnes avant, mais préfèrent la belle langue, je le dis comme ça, et pourquoi pas. C'est-à-dire une traduction un peu ciselée, qui soit vraiment belle, enfin je me permets, la belle langue en français, qui fasse...
Oui, oui, oui.
Et évidemment, c'est pas la même logique de langue, c'est pas la même structure, et donc le choix... Bon, bah, je ne sais pas ce que vous pensez en lisant, mais le choix qui est fait, c'est le son. C'est quand même, quand on, autant qu'on le puisse...
Oui, oui, c'est le son.
Être fidèle à ce qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de lecture à voix haute aussi. Oui, on lit en français à voix haute ce qu'on a traduit. On lit à voix haute le texte allemand, Niels le précisait, c'est très important. Avant de traduire, par exemple, je pense, on essaie de garder autant que possible la sonorité du terme allemand dans la langue d'accueil, enfin, c'est genre en français, quand on peut. Mmh. Et je ne sais pas, tu penses, il y a plein de
choses. Tu peux dire peut-être maintenant.
Oui. Il y a autre chose. J'ai traduit pas seulement Freud, j'ai traduit Thomas Bernhard, qui est un poème, un poète. Traduire un poème, c'est une nouvelle poésie. Et j'ai essayé, nous avons essayé de garder ça aussi pour Freud. Cette chose qui passe par le corps. Et que ça peut, oui, ça peut être, ne pas être la langue française qui est très très différente, magnifiquement belle, mais ce n'est pas la même beauté du tout. Freud a écrit comme Goethe, Johann Wolfgang Goethe, il était très influencé par Goethe, il a même eu le prix Goethe. Il a cette richesse de la langue. Moi j'ai beaucoup de mal toujours à faire l'histoire avec la langue allemande, parce que l'Allemagne est pour moi... Mais justement, ça, je vais le dire tout à l'heure. Si je peux dire un mot, à la fin de l'analyse finie, l'analyse infinie, Freud a écrit le mot, comment il s'appelle, Sträuben gegen die Weiblichkeit. Ça a été traduit par refus de la féminité. Le refus, c'est du Verweigerung. Sträuben, j'ai pensé, c'est comme un chien. Un chien. Un cheval. Quand il ne veut pas, il dit. Ah, donc j'ai dit hérissement contre la féminité. C'est quand même autre chose. Ça rentre dans le corps. On peut voir le cheval qui hérisse. Le refuge.
Il y a une petite lettre là, qui se balade. Le chat se hérisse et le cheval hérisse.
Oui, c'est ça. Oui,
il y a toujours du H.
Voilà, oui. Donc et l'autre, non, les images, là,
c'est non, mais continue, c'est bien l'autre, dis-le, l'autre.
Die Triebbändigung. Alors là,
ah, oui,
j'ai travaillé, nous on a travaillé maintenant ensemble, mais je travaille là-dessus depuis 16 ans, de ce livre-là, 11 ans. Et il y avait un autre groupe, je ne vais pas dire les noms, où on s'est tellement disputé qu'on ne se parle plus. Ma vie, mais ça va tellement
à propos de la langue. Mais à propos de ce terme-là, trib, que tu vas dire.
Triebbändigung. C'est comme dompter un animal. Voilà, comme les chevaux, on restaure les animaux. Alors, ça a été traduit comme ça par les autres, par les Jebaki. Je ne le nomme pas. Pour les membres du Conseil d'État, ça me
plaît beaucoup.
Par domptage des pulsions. Alors, c'est inimaginable. Moi, j'ai trouvé, dans le mot-clé, c'est vraiment moi, ça m'est vu. C'est sorti de mon corps et de ma langue. Je vais peut-être dire quelques mots dont je crois, elle me pose une question. C'est ma traversée des langues de l'Allemagne, de la France. Oui. Voilà. Non, moi, j'ai proposé cerner la peinture. C'est quand même autre chose.
Oui.
Cerner, c'est parce que Bendigung, il y a le band, il y a le ruban. Ouais, tout c'est aussi dans la langue. Donc, cernage de la pulsion. Voilà. Oui, et c'est quand même autre chose. Ça a du corps.
Mais Suzanne, parce que là, je ne peux pas m'empêcher de me dire ma question quand même un peu brûlante. Ça, c'est de la politique aussi. Parce que je me suis dit, pour que Suzanne
et la poésie.
Insiste, enfin, voilà, que pour que vous vouliez ce terme-là, ça, on n'est plus du tout dans la langue du maître. On pourrait dire, moi, ce que j'entendais, c'était le domptage, comme le Voesvar, Zolifverden, comme Serge Cotet dit, on était à l'époque quand même le mois fort, il faut le dompter.
Le mois de déloger le ça. Ça, c'est vraiment monstrueux qu'on ne peut même plus le dire.
Donc, c'est vraiment aussi très. C'est le son, mais c'est aussi très politique, il me semble, comme choix. Tout à fait. De non au domptage oui à cerner.
C'est tout à fait la politique. Je suis très concernée par la politique.
Il y avait eu une hésitation autour de serrer la pulsion.
Ouais. Il y avait aussi serrer.
Je
me suis battue pour cerner. Mais je me suis battue avec des ongles comme ça.
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord que c'est politique. Et moi, je dirais aussi que la traduction donc, exige deux choses, il me semble. La traduction de Freud. Ça exige évidemment la connaissance de la langue allemande, et donc ça c'est important. Mais ensuite, il me semble qu'il y a une espèce de travail d'interprétation à partir d'une connaissance aussi de l'œuvre de Freud. Parce que par exemple, si tu t'ériges contre la question de dompter, et ça te semble plus la question de cernage, c'est parce que tu sais ce que c'est que la pulsion et que tu y es orienté. Donc une traduction va aussi dans le sens de pouvoir former et orienter. J'ai dit ça, par exemple, en tant qu'Espagnol, peut-être que toi, tu connais aussi Ballesteros. Ballesteros, il a fait un travail immense, parce que c'est... Ballesteros. Il a traduit toute l'œuvre de Freud en espagnol, tout au début, donc c'est un travail monumental, mais il a fait des problèmes d'orientation, par exemple... La pulsion, il l'a traduit dans beaucoup d'endroits par instant.
Même la corde.
Mais imaginez, qu'est-ce que ça par instant, pulsion.
Bon, là, les amis, même la corde, au début, il a aussi dit instant. Et à partir d'un moment, il a compris que c'est pas l'instant.
Voilà. Pendant longtemps, il a dit instant. Il faut comprendre, il faut connaître. les corps oui. aussi freudiens pour pouvoir faire une bonne traduction. Oui. Donc il me semble que c'est quelque chose de l'ordre d'une interprétation oui. qui va orienter.
Comme disait Nils, c'est la lecture.
Je ne pense pas à la lecture.
C'est la lecture.
C'est pour ça que je l'ai
dit. Son cartel de lecture, c'est pas
une
lecture freudienne.
Oui. Là, ça m'a bien.
C'est sur cet interprète. C'est si vrai que.
C'est que je vais le dire.
Chaque soirée, je vais le dire. Pour ma part, c'est vraiment l'occasion de travailler Lacan. Je le dis un peu brutalement comme ça, mais voilà, par rapport à ce que vous dites, évidemment, il faut derrière un corpus, je sais pas, avoir lu Freud, avoir lu Lacan pour cette traduction. Et en même temps, moi, nos soirées, à écouter comment on hésite sur certains termes, c'est l'occasion, évidemment, de savoir pourquoi aussi on hésite, au-delà du son, etc.
Mais ça fait partie.
C'est très enseignant du côté de. Quand je ressors, j'ai envie de lire, ça marche bien.
On comprend qu'on puisse se fâcher pour des raisons politiques très sérieuses, parce qu'entre serrer la pulsion et cerner la pulsion, le serrage, il peut aussi bien être géométrique que topologique.
C'est
un cercle. Le cernage en lacanien, c'est une bande de Möbius. C'est-à-dire, j'ai été très sensible. Je commence mal, excusez-moi les auteurs, j'ai pas lu la traduction. Je n'ai pas lu la traduction encore. Mais je vais mieux continuer que je ne commence. J'ai été très sensible, d'abord, bien sûr, à ce que vous appelez la fissure du Wisch, et puis les remarques que Stella a soulignées dans le texte sur Horizon, sur votre travail de traduction, ou plutôt de poésie. C'est-à-dire que ce n'est pas du côté du sens.
De la poésie.
Je pense là à ce que dit Lacan dans là-dessus. Ce n'est pas du côté du sens, c'est du côté de la signification, comme un poème.
Oui, tout à fait.
Ce qui lui convient, c'est que la signification percute quelque chose chez le lecteur, que ce soit en allemand ou en français. Et c'est un peu dommage si ça n'est que quelque chose qui pose problème en français, qu'on aille au texte allemand. Parce que si ça ne pose pas de problème, qu'on lit, c'est un problème. Que ça ne pose pas de problème.
Mais oui, c'est un grand problème.
Mais j'ai été très sensible à quelque chose qui est ce que vous dites à propos du « en même temps ». Et je trouve que c'est vraiment très politique. Il y a le « en même temps » de l'inconscient, le « en même temps » qui fait que la négation, c'est l'affaire Nagnon, et que ça n'est pas une opposition binaire. Et il y a le maître, quel qu'il soit, quel que soit son nom, le langage administratif, qui fonctionne avec une opposition où chaque élément de l'opposition est binairement opposé à l'autre. C'est-à-dire que c'est un en même temps qui est A est vrai et non A est vrai absolument tranquillement. Mais les deux étant toujours en opposition. Et une traduction juste, ou plutôt une reconstruction juste de la langue freudienne clinique, disons, de la langue clinique, justement, ça tient compte de la logique de l'inconscient, c'est-à-dire d'un « en même temps », voilà, qui est « l'enfant est de ce côté-ci, mais en même temps, il est de ce côté-là, les deux n'étant pas en opposition, en contradiction. » Parce que c'est mis en... Les contraires sont mis en série sur, dans le fantasme, par exemple, et non pas en opposition. Donc c'est au niveau politique, je trouve que même au niveau politique de la politique politicienne, aujourd'hui, par rapport au « en même temps », et à ce qu'on a à prendre comme position en tant que clinicien vis-à-vis des directives politiques de gestion des professions dites de parole, c'est tout à fait essentiel.
Alors, il me semble que tu avais quelque chose à dire.
Je voulais juste revenir, mais c'est quelque chose d'un peu intime, Suzanne. Suzanne, tu as insisté au début sur la voix.
Oui.
Et justement, ta voix, tu la retrouves.
Oui, il y a peut-être ça n'a rien à voir, mais là, je viens d'avoir cette idée en vous parlant. J'ai eu aucune voix depuis 2 ans. Je ne sais pas ceux qui ont parlé avec moi au téléphone. Et il y a 15 jours, ma voix est revenue. Il y a aussi, c'est un fait, je travaille toutes les semaines une heure avec un chanteur d'opéra, mais quand même, c'est à ce moment-là.
C'est formidable.
Mais c'est un constat. Donc, je suppose que ça a un lien, puisque je l'ai dit, il y a un lien.
Eh ben oui.
Donc, le fait même de le dire. Oui, c'est oui, ça. Oui, vraiment. Ça. Oui, oui. Et je viens de l'entendre en parlant de la voix, justement.
Non, je veux juste lire une petite phrase qui résonne avec ce que vous avez dit, là, de l'encore, que j'aime tellement, ce traducteur Walter Benjamin, dans un livre, La tâche du traducteur qu'on trouve dans ses œuvres 1. Et il dit, alors lui, il dit directement, le traducteur tiret poète, traduit, représente l'intraductibilité, l'insaisissable, le mystérieux et le poétique. Bon, après, j'ai pas tout noté. Il faut renoncer à communiquer. Et il parle d'abandon du traducteur. Je trouve que c'est très beau, d'abandon du traducteur.
Mais oui.
Nathalie, tu...
je voulais passer la parole à Nils, parce que quand même, en même temps, ça a été quand même ton...
Oui, parce que dans un premier temps, on avait traduit par simultanément, ce qui est une possibilité au regard du dictionnaire. Mais littéralement, gleichzeitig devait conserver, parce que c'est Zeit, devait conserver le temps. Donc c'est en même temps.
Exactement ça.
Par ailleurs... là, c'est une position personnelle. J'ai tenu à ce que ce soit en même temps, parce que ce en même temps est un signifiant qui, sur le plan politique, a incontestablement une résonance. Et je crois que l'article de Freud est d'une certaine manière quelque chose qui peut tout à fait nous orienter dans ce qu'on pourrait appeler le cas Macron. Je pense que le cas Macron relève profondément de Ich Palto. Voilà. Donc, c'est, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai insisté, mais pas seulement, mais insister sur le « en même temps ».
Tu vois, j'étais sûre.
Non, tu vois, je fais la division.
Oui. Donc en même temps, c'est à la fois la littéralité, mais c'est aussi quelque chose qui permet de rendre compliquement d'une figure.
Quel que soit le patron, le maître ne fonctionne pas avec un autre incomplet. Avec l'incomplétude de l'autre. Donc c'est le discours du maître qui fonctionne comme ça, avec deux en même temps qui sont simultanés et qui peuvent être parfaitement contradictoires.
Tout à fait.
C'est exactement autre chose, je ne dis pas l'inverse, je dis c'est exactement autre chose en même temps que la logique de l'inconscient avec l'autre inconsistant et la négation qui se fait par... l'affirmation ou le refoulement.
Oui, là, c'est le démenti.
Oui.
Il n'est pas tout à fait le refoulement, justement.
Dans le prolongement là, de l'échange qu'on est en train d'avoir sur les questions de traduction, moi, j'ai deux petites questions, en fait. Justement, dans la tentative que vous avez faite de saisir la pensée freudienne, vous traduisez, vous l'expliquez dans Horizon, hein, page 178, vous traduisez par exemple, excusez-moi pour l'allemand, mais Ich Veränderung,
voilà.
Altération du Ich. Oui, et vous expliquez que c'est parce que dans Veränderung, il y a Ander, l'autre.
Tout à fait.
Et que donc on retrouve l'idée de l'autre dans le terme français altération. Et donc je me disais, mais justement... qu'est-ce qu'une lecture lacanienne va permettre d'entendre et d'attraper plus précisément dans la pensée freudienne. Et ma deuxième question, qui est un peu dans le prolongement aussi, quand vous expliquez qu'il n'est pas question pour vous de chercher la belle façon, il ne s'agit pas de coller à la belle
c'est
langue.
C'est ce que voilà. Nathalie était là.
Mais en même temps, il y a cette attention que vous portez à la sonorité, ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Donc vous avez choisi de traduire Heinrich par fissure.
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
Par les errants. Attention, en fait, ça conduit à une certaine poésie, on l'a évoqué. Et donc, la question, c'est que du coup, finalement, la poésie ne vient pas de surcroît.
Je crois que c'est un outil.
Oui, oui. Non, nécessairement, si on traduit en même temps, Thomas Bernhard et Freud, Sigmund Freud, si ça vient du même centre, du même nœud, ça a des... Oui, ça.
Question du son, du corps.
Oui, moi, j'ai beaucoup insisté sur le... Oui, fissure. Oui, je sais que tu le vois. Mais si l'autre jour, dans une réunion qu'on avait chez moi, tu as lu ça, les débuts de notre traduction de la division du sujet. Tu te souviens? Tu veux bien le relire? C'était extraordinaire. Comment tu as transmis ça? C'est tout à fait au début de la division du « ich ».
On essaiera de répondre à votre question sur ce que ça peut impliquer sur le plan lacanien de Ich Veränderung.
Oui, là, je peux... Ah oui, d'accord. Oui. Vas-y.
Alors... Donc, c'est le deuxième paragraphe.
Donc là, on est en français.
Là, on est en français.
Oui.
C'est la page 125. Le « ich » de l'enfant, on pourra en parler peut-être de ce « ich », le « ich » de l'enfant se trouve donc au service d'une puissante revendication pulsionnelle qu'il a coutume de satisfaire. Et il est soudainement effrayé par un événement qui lui apprend que la poursuite de cette satisfaction aura comme conséquence un danger réel, difficile à supporter. Il doit maintenant se décider. Ou bien reconnaître le danger réel, s'incliner devant lui et renoncer à la satisfaction pulsionnelle, ou bien dénier la réalité, se faire croire qu'il n'y a pas de raison d'être effrayé pour pouvoir rester accroché à la satisfaction. C'est donc un conflit entre la revendication de la pulsion et l'objection de la réalité. L'enfant, pourtant, ne fait aucun des deux. Ou plutôt, il fait les deux en même temps, ce qui revient au même. Il répond au conflit par deux réactions opposées, toutes deux valables et efficaces. D'une part, il récuse la réalité à l'aide de certains mécanismes et ne se laisse rien interdire. Là aussi, signifiant politique. Ne se laisse rien interdire. D'autre part, dans le même souffle, il reconnaît le danger de la réalité, il prend sur lui l'angoisse devant cette réalité sous la forme d'un symptôme douloureux et tentera plus tard de s'en défendre.
En face des lectures.
C'est très bien lu.
Et là, c'est la Heinrich qui l'a.
Alors, pour le Heinrich, allons jusqu'au bout. Nous devons avouer que cela est une solution très habile face à la difficulté. Les deux parties qui s'affrontent ont reçu chacune leur part. La pulsion peut conserver sa satisfaction. La réalité a reçu comme tribut les égards qui lui sont dus. Mais il est connu que seule la mort est gratuite. La réussite a été obtenue au prix d'une fissure dans le « i » qui ne cicatrisera plus jamais, mais qui s'agrandira avec le temps.
Voilà, c'est ça.
Les deux réactions opposées au conflit se maintiennent en tant que noyau d'une division du « i ». Tout ce processus nous semble à ce point singulier parce que nous tenons la synthèse des processus du « ich » pour quelque chose qui va de soi. Mais, de toute évidence, nous avons tort. La fonction synthétique du « ich », qui est si extraordinairement importante, a ses conditions particulières et subit toute une série de troubles.
Voilà.
Peut-être alors justement que le « ich Veränderung » se comprend, s'entend par rapport à cette question-là, c'est-à-dire « altération », parce que ce n'est pas simplement un changement, une modification, mais c'est quelque chose qui affecte le « ich » de telle sorte que la synthèse supposée qui lui est attribuée est impossible.
Qu'il est altère.
Voilà. C'est une atteinte, au fond.
Et c'est cette traduction dans l'autre groupe, c'était un casus belli et la guerre a eu lieu.
Ah, c'est là.
La guerre a eu lieu.
Ah, oui.
On ne s'est plus vu. Non, je vais pas faire. Il ne faut pas être pathétique, mais c'était un peu pathétique.
Et qu'est-ce qui vous a fait choisir fissure au lieu de déchirure?
Ah.
parce qu'il y a Heinrich, et déchirures d'une robe déchirée, c'est un peu imaginaire, fissures, c'est net.
Tu parles d'atomes, hein, t'aimais bien dire atomes. Et Lacan, il y a une occurrence.
Oui.
À propos de ça.
Il y a juste quelque chose qui me pose problème.
Je te permets
voilà.
de ne pas être d'accord.
Voilà. À propos de fissures, c'est que ces fissures dans le « i », donc fissure, ça, on parle d'un mur, où il y a une fissure, qui deviendra ensuite une division. Mais la fissure dans le « i » s'accompagne de la formule suivante, qui ne cicatrisera jamais. Autrement dit, là, c'est quand même le corps vivant qui est impliqué dans la cicatrice. Et comment le minéral et le vivant peuvent ici s'articuler? Moi, j'ai un peu de problème. C'est-à-dire que la fente, ça relève du minéral, la cicatrice, ça relève du vivant et du corps. Donc, je reste un peu avec cette...
On parle de fissure d'un os.
Mais oui, oui.
C'est vrai.
Et là, je voulais ajouter quelque chose qui me vient. C'est donc l'enfant, il y a cette Heinrich à son au début qui ne guérira jamais. Et cette Heinrich, c'est la même chose que la détresse du sujet. Et voilà, et ça renvoie à la détresse, ça veut dire die Hilflosigkeit chez Lacan. Autant Freud que Lacan insistait là-dessus que cette détresse du tout petit et la détresse du vieillard, c'est la même chose. Donc Freud, il a écrit ça, je crois, après la 1919. Sa fille n'était pas encore morte, ni Heinrich. Enfin, quand même, à son âge-là, il dit, il y a un Heinrich dans ma vie, et j'ai fait l'expérience que jamais ça ne guérirait. Ça reste, à partir de là, on peut arriver à la sublimation. De cet Heinrich, on peut en faire quelque chose. Par exemple, traduire Freud.
Je voudrais ajouter à propos de la question du bilingue.
Oui,
réfléchis et je pense finalement que l'expression bilingue est problématique. Parce que justement, si tu prends l'expression Hilflosigkeit, en allemand, Hilflosigkeit, c'est Hilf, c'est aide, au secours. Et los, c'est absence de, c'est ce qui manque. Donc littéralement, le signifiant allemand dit absence de secours. Or, détresse, c'est quelque chose qui pourrait sembler proche, mais si on ne s'accroche pas au signifiant allemand, on ne saisit pas la valeur propre de la détresse, du signifiant détresse en français. Autrement dit, je l'entends de plus en plus comme ce que vous avez là, c'est le texte allemand dont la traduction n'est peut-être, après tout, que quelque chose qui émane du texte allemand. C'est-à-dire, c'est moins le texte français ou Freud en français que Freud allemand. Et le texte français étant quelque chose qui émane du texte allemand, qui reste le texte fondamental.
Mais oui, c'est ça. Bon. Pour revenir à détresse, au début, j'aimais pas trop, parce que c'était un peu sentimental. Mais c'est la tresse, voilà, c'est la tresse, le nuage qui s'était fait, et c'est ça la détresse. Et quand j'ai entendu ça, j'étais contente.
Ça me fait penser, peut-être qu'il a repris ça, Alexandre Stevens, ça m'avait vraiment frappé, parlait de détresse comme vraiment quelque chose qui se défaisait, et du désarroi comme un... juste l'arrangement qui se dérangeait. Alors c'était pas par rapport à l'allemand, c'était par rapport au texte sur la psychose. Et voilà, enfin je trouve que détresse, ça remontant la tresse en tout cas.
Quand même, vous notez la question de l'autre absence de ses cours, c'est-à-dire qu'il y a un autre qui n'est pas là.
C'est l'autre barré, c'est ça.
Donc là, c'est aussi différent la détresse.
Mais c'est aussi l'autre n'est jamais là. Il est toujours barré. L'autre ne répond jamais, il ne peut jamais répondre.
Si je reviens sur la lecture de votre premier fragment du texte de 38, ce que vous nous dites, c'est que Macron est un 3 points de suspension.
Et que Macron... C'est mon ami Litz qui le dit, pas moi.
C'est un cas chimiquement pur, me semble-t-il.
Ah bon, d'accord.
Bon, laissons tomber le mot pur, s'il vous plaît. C'est
insupportable. Oui, non, je ne vais pas.
La pureté,
c'est... Oui, non, mais... Bon,
Oui, on peut s'entendre à demi-mot.
Oui,
voilà.
Mais d'abord, le « si j'ai tenu à ce en même temps », parce que c'est « gleichzeitig », hein, c'est vraiment littéralement, c'est pour ça que la question de la lecture que Lacan évoque là, me semble absolument capitale. Et peut-être sans le savoir, c'est ce signifiant de lecture que tu as toi-même proposé depuis bien avant que j'arrive, eh bien c'est finalement ce qui m'a orienté.
Oui, c'est
et que,
ça, oui.
Voilà, c'est vraiment la lecture du texte freudien qui est le point
de
d'ancrage.
Et de Lacan.
Et de Lacan, bien sûr.
Oui, mais Lacan,
oui, bien sûr.
Oui.
Qui le souligne.
Oui, oui, il a produit la lecture de Lacan de cette façon. Jamais on traduit, je crois qu'on le dit, mais à chaque fois on lit en allemand. Avant, on prend le temps de lire à voix haute le texte, de l'entendre. Enfin, je pense que. Pour ce... et c'est lu, enfin, on n'est pas tous loin de là germanistes. Hein. Des fois, on le lit comme on peut. Donc voilà.
Dans la question de la lecture, Suzanne, si on peut faire un peu d'historique, c'était il y a longtemps, il y a des années, il y a, toi tu as marqué 600, mais je pense que tu exagères, mais enfin, peut-être que c'est il y a 600.
Oh, il me semble que toi tu m'as proposé de traduire l'esquisse, c'est pas ça?
Voilà, la première fois que j'étais directrice de l'Anvers, il y avait la question de la lecture qui était, qui s'est posée pour moi comme quelque chose d'important. Et donc, j'ai demandé à Suzanne de créer un groupe de travail de lecture freudienne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait, on avait parlé quand même dans la question de la politique de l'écologie, il y avait beaucoup de jeunes qui connaissaient Lacan, qui connaissaient Jacques Alain Miller, mais qui n'étaient pas du tout proches de la lecture des textes freudiens. Et donc, on s'était dit que ça pourrait être quelque chose qui pourrait offrir l'Anvers de Paris. Et donc, Suzanne, et puis elle s'est attelée à ce travail formidable de lecture freudienne qui ensuite est devenu de traduction. Mais au début, c'était vraiment un groupe de lecture.
Oui, tout à fait. Oui, malheureusement, Guillermo Grossetto a travaillé avec nous quelques années, il n'est pas venu ce soir, mais lui, il m'a dit avant de travailler dans notre. Je ne sais pas, j'ai mis groupe, notre rencontre, j'ai proposé ça l'autre jour. Il a dit, avant, le Freud, ça lui était complètement étranger, insupportable. Et le travail sur le texte et en le traduisant lui a permis l'accès à Freud.
Ben parce qu'il y avait aussi toi et ton corps.
Oui, absolument.
Alors, corps, et sinon, une autre question.
Oui. Corps, est-ce que ce n'est pas de chair dont il est question?
Oui, la chair des mots,
la matérialité.
Oui. D'accord. Maintenant,
je sais. Le souffle,
la respiration,
le rythme,
les vibrations dans le corps, la matérialité.
Oui.
Et sinon, une autre question. Quelle serait donc la perle du livre, la trouvaille que vous avez fait, qui vous semble que dans la traduction, par exemple, qu'on a de Freud aux éditions Pouf, quelle serait la perle que vous avez rescapée
On n'est pas curieux de ça.
Vous n'étiez pas non plus à côté de la lecture.
Ah, ça c'est une autre question.
Comment de l'autre non. On nous avait évité de lire une autre traduction. Absolument évité.
Vous les avez raison.
On avait l'espagnol, l'italien.
Non, mais c'est deux choses.
Mais pas le français.
C'est plutôt
à jamais.
Un terme fait problème. Parfois, on entendait les autres langues. Il y a eu hébreu, espagnol, anglais.
L'italien,
c'est des erreurs quand même dans les autres éditions de traduction.
Mais on ne se reportait aux traductions, que ce soit les œuvres complètes ou dans les puffs avant, déjà réalisées de Freud. Ouais, c'est vrai qu'on ne l'a presque jamais fait. Mais parce que Suzanne, enfin, c'est pas ton.
Oui, c'est une démarche, mais je veux dire, là, on ne peut pas savoir si on est mal orienté aussi pour certains textes. Mm. Vous voyez, comme par exemple, je reviens à la traduction espagnole, à Ballesteros, que c'était véritablement un casse-tête à chaque fois qu'il parlait des pulsions d'instant.
Mais cette tradition, ça vient de la traduction anglaise de Strachey. C'est curieux que cette réduction ait été approuvée par Freud. Oui. Qui a dit, oui, c'est sous votre réduction. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs?
En même temps, il y a des termes qui me restaient, et de ce que j'ai lu quand j'étais, difficilement d'ailleurs aussi, quand j'étais étudiante, et quand même, mais c'était un souvenir, mais on ne s'est pas reporté pour répondre.
C'est-à-dire que vous ne vous inscrivez pas dans la démarche de, on va faire une meilleure traduction.
C'est
on
ça, c'est pas la...
l'effet d'une lecture, comme vous l'expliquez, qui est venu de surcroît. C'est ça qui est intéressant.
Voilà, c'est ça.
Pour corriger ou pour proposer une meilleure traduction, il y a quelques années, la traduction des rêves.
Ça aurait été un dialogue imaginaire, de toute façon.
Très intéressant.
Une rivalité imaginaire.
C'est ça, c'est pas de ce côté-là.
C'est-à-dire que, drôle, mais une fois qu'on a réussi à finalement fixer un texte, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit en faire? Oh bah, on pourrait peut-être... Alors on a gardé ça, on en a encore deux autres, là. Ah. Bien de chaud. On se dit, mais quand même, ça vaudrait peut-être le coup de... De le faire connaître, quoi, en fait.
Oui, c'est très intéressant comme démarche, parce que ça ne se devine pas comme ça. Ouais, je ne sais pas, moi j'ai travaillé sur Wolff, j'ai lu des versions en français. Bon, alors sans être dans forcément la concurrence, j'avais quand même le français aussi en tête. Et donc je trouve que c'est très important. Peut-être on pourrait passer la parole à Marco Androsilio qui avait une question. Qui fait partie de notre cartel. Oui.
Vous dites justement, de la continuité, qu'il y a eu des participants qui parlaient, disaient Freud dans toutes les langues. Pour saisir quelque chose de l'os de langue, de la langue.
Oui, c'est la langue, oui.
Et j'ai trouvé un passage de Jacques-Alain Miller dans le monologue de la parole, qui dit l'interprétation, quand elle est du sens, est illimitée.
Illimitée, oui.
Mais l'interprétation analytique fait limite. L'interprétation finitise. Il y a dans cette phrase la notion que ce n'est pas l'essence qui s'assure par l'interprétation, c'est le réel qui s'assure par l'interprétation. Est-ce que dans votre travail, vous avez essayé d'aller à la limite du sens pour extraire le « ça veut jouir » qui se cache derrière le « ça veut dire »
Il y a le souvenir.
Le ça veut dire.
Le ça veut dire.
Ça veut dire.
Est-ce que tu peux peut-être répéter la phrase?
Est-ce que vous avez essayé d'aller à la limite du sens pour extraire le ça veut dire qui se cache derrière le ça veut dire?
En tout cas, les deux textes, la deuxième partie et la troisième partie, construction, analyse et le dernier texte, se terminent sur la question de la psychose, donc la question de la jouissance. Et il y a des choses à travailler qui sont nouvelles, cette espèce de parallèle qui est pas un parallèle entre le rêve et le délire, et la place du morceau de réalité que traite le psychotique et que traite le névrosé. C'est quand même frappant. C'est bien une question de jouissance. Hein.
Oui, et est-ce que ça ne va pas de pair quand même avec ce que tu disais, Suzanne, ou quelqu'un d'autre aussi, c'est pas le vœu de communication. C'est pas la langue versus communication.
D'abord, nous savons quand même avec Lacan, on n'entend jamais l'autre.
Oui.
Il n'y a pas l'entente. Oui. Donc c'est à partir de... Lacan a écrit aussi un des tout premiers textes. Les analystes travaillent ensemble en sachant qu'ils ne vont pas s'entendre. Il faut savoir ça. C'est très précieux. Ce n'est pas une
objection. Donc il me semble qu'extraire le ça veut jouir au-delà, comme le savoir dire, ça touche à cette histoire de renoncement à la communication.
Non,
on est dans le même binaire.
Ça touche au réel, à
l'intraduction. Oui, vraiment, ça touche au réel. C'est ça. La traduction, c'est ça. Toucher au réel, donc ça.
Mais oui, justement, c'est intéressant cette question du réel dans l'introduction, parce que tu dis dans ton introduction du livre que le va-et-vient d'une langue à l'autre que vous avez eu produit, tu dis, il y a éveil.
Oui, c'est très voilà. Quand on dit voilà, c'est ça l'éveil. Oui.
L'éveil, parce qu'on se réveille quand on sort du sommeil, quand on rencontre du réel, le cauchemar ou un morceau de réel qui vient faire action dans le sommeil et nous réveille. Donc cet éveil dont tu parles, que vous a saisi, ça c'est très intéressant dans le passage d'un à l'autre.
Ça ne laisse pas tranquille. Ça ne laisse pas tranquille. Un texte ne laisse pas tranquille.
Voilà.
La traduction, la nuit, les rêves, un mot au milieu de la nuit, il arrive.
Sauf quand on ne comprend pas. C'est génial. Tu vois, il y a une très belle phrase de Lacan que j'avais isolée. Le 17 mai 77, dans un succès d'une bébé.
Aujourd'hui, ce sont le 18.
Oui, et demain, c'est un grand événement, mais ce n'est pas à moi de le dire. Lacan dit dans un succès de l'une bévue qu'un discours est toujours endormant sauf quand on ne le comprend pas.
Ouais. Ben voilà.
Voilà, donc d'ailleurs, du coup, je peux peut-être dire ma question rapidement parce que c'est quand même à privilégier, dites-vous, dans la conversation dans Horizon 66 et dans l'introduction, le son au sens. Il me semble que vous êtes allé dans cette direction. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée? Et est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de moments de traduction difficiles dans lesquels vous n'auriez pas toujours été à l'unisson précisément? Alors je disais, je pense moi par exemple à libido collante et hérissement. Parce que je vous avoue que libido collante...
On a dit ça.
Vous l'avez trouvé dans le texte?
Particulièrement pas beau.
On a dit
on a dit ça.
On a dit ça.
On n'a pas ça. On n'a jamais.
Si, non, mais c'est possible.
Mais si, c'est une clé briscade de liberté. Une clé briscade, ça a été traduit par inertie. Mais clé briscade, c'est clé, c'est la colle.
C'est un bon exemple, quoi.
Voilà, c'est pour ça qu'on a dit colonne. Je me souviens bien, on a beaucoup discuté. Des clés presque à des limites.
Ah, c'est peut-être dans l'analyse.
C'est dans l'analyse.
C'est ça.
Donc, voilà, vous êtes bien. Non, mais le mot m'avait heurté, justement. Je m'étais dit, enfin, un mot qui me déplaît. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à ma père. Donc, Georges qui avait une idée là-dessus. Mais donc, oui, là, on est dans le. On ne comprend pas précisément. D'ailleurs, ça m'a réveillée, parce que ça ne m'a pas plu.
Ça t'a décollé.
Oui.
Ça ne colle pas la belle langue.
Est-ce que vous avez rencontré ça, vous, cette espèce d'histoire de ce que dit Lacan, là, du sens toujours endormant et du non-sens qui réveille?
Mais oui, quand sous notre travail, j'ai là-dessus.
Je voulais savoir... Est-ce qu'il y a des styles de Freud en allemand? Parce que, par exemple, j'ai fait l'expérience de commencer à lire Lacan en espagnol.
Oui.
Et il y a toute une partie du style de Lacan qui ne passe pas. Par exemple, tout le côté ironique, toutes les choses que Lacan peut dire en disant le contraire, en faisant une boutade, quand on ne connaît pas la langue, quand on n'a plus lu la langue originale, on le perd. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qu'on gagne à le lire en allemand, qu'est-ce qu'on découvre de son style?
De qui? De Freud?
De Freud, là.
Oui. Mais on ne peut pas dire ce qu'on gagne, c'est un autre d'ailleurs entre nous. La seule dans la langue, c'est la première langue, c'est moi dans notre équipe. Toi aussi un peu?
Comment?
Toi aussi, c'est ta première langue, comme on dit maintenant, maternelle?
Moi, c'est ma langue paternelle, l'allemand.
Voilà. Sinon, je ne peux pas répondre à cette question. Cette langue éveille, pose question, dérange énormément.
Ça m'évoque une autre
question. Je voulais dire autre chose.
Que si le style, c'est du côté du symptôme, Lacan dit bien que le symptôme de Freud, c'est croire en la vérité, Wirklichkeit ou Realita, la réalité d'un texte que vous avez lu là, tout à l'heure, c'est d'ailleurs une question. Donc, est-ce qu'il y a un style par rapport à la vérité chez Freud qui serait différent d'un style par rapport au réel chez Lacan? dont vous tiendriez compte pour reprendre la question de la vérité chez Freud. Et c'est un retour à Lacan en traduisant Freud.
Oui, oui. Évidemment, j'ai compris énormément de choses chez Lacan grâce à Freud.
Oui.
Mais Freud, c'est plus littéraire, je dirais, si je puis me permettre, que Lacan. Et sinon, on a ressenti une opposition quand on a présenté le livre au centre protestant.
Oui.
Qu'on lacanisait trop.
Ah oui, c'était incroyable.
Oui, oui, quelqu'un m'a dit ça. Voilà. Mais on dirait que Freud, c'était avant Lacan. Pourquoi traduisez-vous avec Lacan? Comme si on ne faisait sans Lacan.
Oui. Justement,
oui. C'est ah oui, c'était étonnant, c'était incroyable.
Mais c'est très intéressant, justement, oui. D'ailleurs, dans...
Oui, c'est intéressant aussi.
Faire Enderung, Altération,
oui,
ça,
c'est ça.
Ça va vers un... Une renaissance oui, des langues, de traduction à traduction. C'est la survie de Freud, finalement.
Alors, je peux vous raconter, j'ai traduit avant, dans une autre vie, de toute la correspondance entre Ferenczi et Freud. C'était pour je ne sais plus quel.
Les conquérants.
Voilà, pour les conquérants. Pour les conquérants. Et on était une douzaine. Et il y avait quelqu'un qui est responsable de Berlin, de Ferenczi, une Hongroise qui s'appelle Judith Dupont. Et on a essayé de quand même s'entendre. Et c'est allé tellement loin parce que tu as dit là, alors elle disait souvent, mais ça veut, elle faisait du beau français, ça veut dire la même chose. Alors là,
ça va pas pour
là c'est là où ça a éclaté.
Ouais.
On s'est séparés en deux groupes. Judith et quelques-uns étaient responsables du texte de Ferenczi et moi et quelques personnes, dont Pierre Thèves, dont je parle ici avec beaucoup d'admiration, et Claude, dis pas Claude, Spernatis. Voilà, on a fait Freud et on est vraiment séparés, mais physiquement. On s'est vus ailleurs, dans d'autres lieux, voilà. Ça va loin, hein. Quand on prend ça au sérieux, c'est du réel. C'est, on n'essaie pas de se réconcilier, c'est pas grave. Mais si, c'est gravissime.
C'est du réel, mais la lecture de Lacan, c'est pas que du réel.
Pas que, non. Mais...
Ça dépend ce qu'on lit. Parce que, quand vous avez dit que Freud, c'était plus littéraire que l'écriture de Lacan...
Je ne suis pas sûre.
Oui, je crois que tu n'es pas tellement d'accord.
Non, je ne suis pas d'accord du tout.
C'est très littéraire.
Bah,
comment
les écrits.
Ah oui, peut-être. Oui.
Oui. C'est magnifique, c'est le style.
Oui,
magnifique, Freud.
Oui, le reste, c'est les
transmissions. Oui, les transmissions. Le style très bien
traduit. La langue de Freud est magnifique.
La langue de Lacan est magnifique.
C'est parmi d'autres pertes, on perd le style quand même autant qu'on puisse. Quand même,
bien sûr, il ne faut pas dire.
Oui, comment
Lacan,
je suis d'accord avec ce que dit Thérèse quand même. Lacan,
oui, non, mais je n'ai pas dit que c'était pas. C'est une retransmission de séminaire.
Pas tout le monde en même temps.
Oui, là, on n'entend plus. Là, il y a tout le monde.
Ah bon, bah du coup, claque.
Taisez-vous.
Dans le texte de Freud, est-ce que c'est pulsion de mort ou pulsion vers la mort?
Pulsion de vie, pulsion de mort.
Non, ah, vous, okay.
C'est une nouvelle idée. Je ne sais pas.
Non, mais dans son texte, est-ce que c'est de vers?
Mais ça n'existe pas. C'est taux de strip. Il n'y a pas de
vers. Ah oui, il n'y a pas.
Il n'y a pas.
La logique de la langue allemande,
c'est qu'il n'y a pas de traduit,
c'est agglutiné. Hein.
Voilà, d'accord. Exactement.
Collé.
Parce que chez Heidegger, on a Zoom, hein, l'être vers
Oui, j'essaie de Zoom, oui, c'est
et
le mouvement.
Et chez Nietzsche aussi, on dit volonté puissance, alors que c'est volonté
de
vers
c'est un
Zoom
taux, oui,
pas
je
pas
sais. Je Freud aussi, il y a dans l'analyse finie, infinie, il y a souvent Zoom. Beaucoup, dans beaucoup d'expressions.
Ah oui, mais pas dans ce syntagme.
Non, là, non.
Pas pour ce mot.
Oui, chez Freud, il y a ça, le mouvement, la direction, le vecteur vers, c'est topologique.
Je voulais dire quelque chose qui m'est caro en écoutant ces magnifiques échanges, conversations très riches. il me semble que la publication aujourd'hui de cette lecture, c'est Adela. Adela,
tu peux te rapprocher, Adela?
Oui.
Ah, c'est Adela. Voilà. Oui, oui, mes yeux sont un peu fatigués.
La publication aujourd'hui de cette lecture, oui, d'un travail des années, et avec tout ce qui a été dit, ça veut dire un engagement des désirs, des demandes, parce que il n'y a pas Lacan sans Freud. Ça, c'est clair.
Oui, bon, ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Donc, c'est... il me semble que la publication aujourd'hui de ce travail, avec tout ce qui a été dit, il me semble que c'est de l'ordre d'un acte, et d'un acte analytique. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie à Suzanne O'Neill et l'équipe. Le cartel qui a travaillé avec elle pour cette lecture qui va nous apprendre encore qu'il n'y a pas de la conscience. Voilà, c'est juste ça.
Mais c'est précieux ce que tu dis là.
Ben, oui, parce que je peux prolonger la chose, je dirais aussi quand même que c'est un travail depuis des années que vous avez fait comme groupe d'élaboration continue. Oui. Et que c'est au sein de l'envers de Paris que ça donne les corps et la vie à l'envers de Paris quand même.
Ah,
et
à
l'envers de Paris comme on
non, mais en fait,
ce
qui compte, c'est la transmission de la psychanalyse. Oui. C'est le but de l'école, le but de cartel, quand c'est des cartels.
C'est un trait au cœur de la mission quand même,
du but de l'envers de Paris. Oui, je suis d'accord.
Donc c'est véritablement un groupe qui fonctionne depuis quand même... 12, 15,
je crois que tu m'as demandé ça en 2004, mais je peux me tromper. Mais alors 2004, 2008, parce qu'on a traduit d'abord l'esquisse, ça a duré des années. D'accord. Et on a commencé en 2011.
Alors, je suis très vieille.
Ici, ça fait.
mais en tout cas, ça, c'est un groupe qui s'inscrit dans ces travaux de formation, de transmission à l'intérieur de l'envers de Paris, comme un satellite de l'école.
Oui.
Donc, en effet, c'est un travail formidable.
Oui.
Enfin, je vous remercie.
Merci.
Merci de vous remercier.
Oui.
On peut recontinuer comme ça. Jusqu'à 2h du matin. Merci. C'est une pièce de théâtre.
Suzanne, on avait une question un petit peu plus dirigée vers toi. Est-ce que tu es d'accord pour que Marcella l'amène, cette question?
Mais oui.
Hein?
Puisqu'elle a écrit, je ne vais pas la priver de ce qu'elle a à dire.
Bah oui.
Est-ce que c'est que ça? Vous n'êtes-il comme si j'arrêtais en analysant ce que vous dites là?
Non, 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 pas du tout, c'est Marcella qui hésitait à la
oui, mais bon, Marcella, vas-y.
Cette question,
vas-y.
Donc je crois que c'est bien de faire
mais
ça.
Mais vas-y, Marcella, vas-y.
J'ai cherché une question qui fasse un lien avec la revue Horizon, parce qu'aujourd'hui, c'était la présentation de deux choses. Livre de Suzanne et de la revue Horizon. Donc, 66, voilà, qui parle sur la sublimation. Donc, en essayant de chercher un lien, je connais un peu la vie de Suzanne, parce que tu as parlé à plusieurs reprises.
Oui, mais tout ce que tu mentionnes, c'est ce que j'ai publié. C'est pas des choses que je te dis à
moi,
mais c'est ça qui est important.
C'est
des
choses publiées.
Donc, j'ai fait un parcours sur la vie de Suzanne qui m'a amené à la question que je vais poser à la fin. Que vous voyez le raisonnement, parce que sinon ça semble un peu... tu l'as pu dire, que la rencontre avec Lacan, pour toi, ça avait été fondamental dans ta vie.
Oui.
Donc il y a un moment où tu vas les rencontrer, pour la première fois, pour les demander d'être membre de l'école freudienne de Paris. Et là, tu as une surprise, parce qu'il te dit, c'est moi qui vous demande d'être membre de mon école.
Non, je vous demande d'être membre de l'école freudienne de Paris. Mais voilà. Suzanne O'Neill, je vous demande d'être membre de l'école freudienne de Paris parce que pas tout le monde veut être membre de l'école freudienne de Paris. Il faut le dire dans ça.
Voilà. Donc, tu vas le demander, il te dit qu'il a...
J'aime mieux vous dire, j'ai pas dormi trois nuits avant, j'étais dans un état, il m'a fait venir à 9h du matin, c'était comme épreuve inimaginable.
Voilà, mais là, tu dis que quand tu es sorti de cet entretien, tu t'es senti adopté par la France.
Oui, adopté, c'est le mot que j'ai dit. Oui.
Voilà, et je crois que c'est dans cette même rencontre qu'il t'a nommé traductrice, quand il a dit à Gloria, Suzanne Homel fera des traductions pour nous.
Oui.
Voilà, ça c'est un moment.
Après... Donc à partir de là, pour moi, c'était un engagement.
Voilà. Oui. Donc oui. Après ça, quelques années plus
mais
tard...
Mais ça correspondait à mon désir. Oui. Il a pas
sans doute il n'a pas été
il avait entendu ça oui, sans que ça soit formulé oui. Voilà,
voilà donc quelques années plus tard tu les demandes en analyse on analyse et là il y a lieu cette séance mémorable dont tu parles en rendez-vous sur Lacan où il te fait cette interprétation de la Gestapo et
oui ça c'est la traduction lacanienne même oui vas-y
et voilà là. Donc, c'est-à-dire qu'il te fait une traduction interlinguistique parce qu'il traduit en passant par le corps l'intraduisible. Ouais. C'est lui qui... Voilà, tu vis ça dans cette séance et tu dis qu'après cette séance, il a eu un avant et un après.
Oui, mais il faut d'abord que je dise la séance.
Bah, je vais raconter, mais j'arrive à la question.
Oui, pardon. Décidément, je ne laisse pas terminer.
Tu dis qu'après cette séance, ça marquait un avant et un après parce que tout est autorisé à traduire.
Oui.
Voilà. Donc, bon, après, tu as fait une autre rencontre très importante, on reste dans Lacan. Donc, la question que je me suis posée, qu'on s'est posée quand on discutait sur toi, c'est si la traduction avait fonctionné pour toi comme un escabeau, comme si que Lacan avait l'escabeau.
Oui, mais d'abord, il faut quand même raconter la science.
Oui,
j'étais en séance avec Lacan et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures, c'est l'heure à laquelle la Gestapo a arrêté les Juifs. Il s'est levé de son fauteuil, il m'a donné une caresse comme ça, sur cette joue-là. Et ça, c'était la traduction interlinguistique de Gestapo, Gestapo. Ça n'est pas du tout le même sens. Les gestes, et c'est une interprétation vraiment sur le corps. Ça, je vous assure, je m'en souviendrai, même ma peau, ma chair, se souviendra toujours. Et ça a complètement changé ma vie. Ça veut dire cette chose, puisque je viens d'Allemagne, c'est très très horrible tout ça, mais ça a humanisé quelque chose en moi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux, horrible, mais j'ai pu, par exemple, le dire, il y a eu cette séquence avec Lacan, cette séance, c'est incroyable que ça ait pu lieu entre nous. C'est vraiment le désir. Lui, c'est le désir d'analyste, et moi, c'est le désir de vivre. Voilà.
Mais on peut voir aussi ton attachement à la voix, parce que c'est quand même là l'homophonie. C'est une homophonie. Et donc là, on voit bien pourquoi tu tiens aussi à la voix.
Mais il n'a rien dit, Lacan.
Il n'a rien dit. Mais je suis sortie. J'étais dans la rue complètement, mais.
Il a juste caressé la joue.
Tu l'as compris tout de suite. Non, tu l'as compris après. Ça t'est venu après.
Oui, attends, je vais le dire. Je suis allée, j'étais dans la rue, mais complètement paumée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même immense, énorme, un truc comme ça. Et j'ai appelé une amie. Je lui raconte ça. J'ai dit, tu te rends compte ce qui s'est passé aujourd'hui dans la séance? Et elle m'a dit, ah oui. C'est Gestapo. Donc il fallait un tiers. Peut-être je l'aurais entendu plus tard.
C'est la petite personne.
Oui, oui, la petite personne, exactement.
La traduction. Comme un vide. Geste.
Voilà.
Oui, oui. Comment?
Comme un vide. Comme un vide.
Comme
un vide. Ah. Un vide. La petite personne.
Oui, c'est comme un vide, oui. Oui, c'est ça, du traite personne comme ça. Ça a quelque chose de comique. Oui, c'est tout à fait. Arrêtez, vous n'êtes pas discipliné.
Non. Donc c'est absolument ton interprétation.
Oui, juste.
Ah, mais quand même, pourquoi tu l'avais pas compris ça, tu
sais. Non, mais justement, c'est que je voyais dans la, dans les touchés, dans la caresse, la peau.
C'est ce que j'ai dit, oui.
Mais lui, il n'a rien dit.
Non, il n'a rien dit.
Donc, voilà.
Il s'est levé. Il m'a dit à demain, parce que c'était tous les jours chez monsieur. Et puis voilà, j'ai parti, j'étais rue de Lille, après rue des Saint-Pères, complètement paumée. j'aurais pu me faire écraser. Et là, j'ai appelé cette amie et elle m'a dit, ma vie, Gestapo. C'est intéressant parce qu'il fallait une
triste personne.
La
vraie
personne.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Lui, là-bas, il y a une question.
Je me disais, t'avais dit, tu m'as dit l'autre fois, Suzanne, ça fait 12 ans qu'on est sur la traduction.
Oui.
Les fins d'analyse.
Non, disais... D'autres textes. Moi, à 12 ans, pour Noël, j'ai demandé des œuvres de Freud. Ce qui n'est pas tout à fait banal.
C'est et pas j'avais qu'il déjà. Il a fallu 12 ans pour traduire, fin d'analyse.
Oh là, ne fais pas. Si
non, tu veux. Non, je ne sais pas, j'ai cru que c'est ce que tu m'avais dit et je me disais en même temps, 12 ans c'est long, mais pour une fin d'analyse, il faut bien toute cette traduction-là, quoi.
Moi, je n'ai pas dit que c'est ma fin d'analyse. C'est toi qui
injecte. Le temps qu'il faut, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a un texte et puis, en fait, il faut encore du temps pour
tout ça. Oui, mais pour revenir à la question de Marcella, c'est effectivement important. Donc, là, je vais dire un peu, mais tout est publié, donc il n'y a pas de secret que j'ai là. Donc, j'ai quitté l'Allemagne très, très tôt. J'ai quitté l'Allemagne à 17 ans et demi, je suis venue à Paris, mais j'ai quitté l'Allemagne à cause du nazisme, de l'ambiance nazie après la guerre. Je suis arrivée à Paris le 2 juin 1957. Tiens, c'est bientôt le 2 juin. Et j'ai quitté vraiment, donc c'était impossible de vivre là-bas. Parce qu'il y a le « taisez-vous, ne parlez pas !» Rosam et toutes ces choses. Et je suis là, et peu à peu, quand je suis partie, je ne savais pas, mais il fallait que je parte. Et j'ai choisi Paris, j'avais vu des films de Renoir, les règles du jeu, et puis Cocteau, et les cafés, et les deux magots, et la rotonde où je vais à peu près tous les jours. Mais tout ça, et peu à peu, d'abord j'ai commencé une analyse avec un mec de l'Institut. Qui avait une montre devant le divan, tic, 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 45 minutes, fini. C'est inimaginable, mais ça existe. Et là, j'allais dans une librairie, rue de Boulevard Saint-Michel, j'ai lu tous les trucs psychanalyse, j'ai lu des Américains, Erich Fromm, et puis un jour, je tombe sur Lacan, écrit. Et j'achète ça comme je pensais qu'il était mort comme tous les autres. Oui, parce qu'ils étaient tous morts. Les... Et j'ai lu le premier texte, La lettre volée. Et il m'a fallu une demi-page. C'était ça que je cherchais depuis que je suis née. Cette intelligence, tu dis, c'est de notre littérature. C'était comme Saint-Paul à Damas. C'était un truc inimaginable. Et j'ai lu, et puis une note ajoutée en 66, dans son séminaire à l'École pratique des hautes études. J'appelle l'École pratique des hautes études, je me renseigne et je vais à son séminaire. Et là, et puis je dis, mais il est vivant, il est analyste, donc je vais y aller. Mais là, j'ai mis plusieurs années. Mais ça, c'est l'élaboration, une telle poussée. Ben vraiment, donc ça a produit donc le travail avec Lacan, à propos beaucoup autour de l'allemand aussi. Lui, il m'a dit, quand la première séance, peut-être la deuxième, en 1932, j'ai appris l'allemand, parce que j'avais la chance d'avoir cette occasion. Donc tout de suite, il a vu que c'est à qui il s'adressait. Il m'a reçu dans un peignoir. Des noix, des nonnes, avec le corde autour du cou.
Pas du cou.
Voilà. Non, pas du cou. Si, le truc autour du cou. J'ai signé. Oui, mais j'ai fait le geste quand même. Je sais, le cou déplacé. Et il m'a dit, excusez-moi, Suzanne Mère. Tous les matins, je fais la gymnastique. Il faut bien que je me tienne en forme. il dit ça à moi, il avait compris, j'ai quitté l'Allemagne parce que eux, c'est des mensana, incorporé ça, et la beauté, la race pure. Il me tue tout de suite, il fait de la gymnastique. Là, tout ça, je pourrais. Donc, ça aboutit à ça, à ce que dit Nacella. J'ai fini avec le travail de faire cette traduction. Et effectivement, je ne sais pas si c'est de la sublimation ou de l'escabeau. Escabeau, c'est Joyce, mais c'est effectivement la traversée et toucher au réel de la langue. Mmh. Voilà, c'est vraiment ça, je suis d'accord, Marcella, avec cette proposition. Mmh. C'est ça, ce n'est pas moins horrible, tout ce que j'ai vécu, mais c'est supportable et je l'ai transformé en un livre. Voilà. Voilà. Oh,